There is fiction in the space between the lines on your page of memories. Write it down, but it doesn't mean you're not just telling stories.
Une nouvelle vision des livres pour dire de l'ASBL Scripta Linea, en français Collectif d'écrit, consacré aujourd'hui au collectif de la ligne 10 à Bruxelles. À la technique, Tamara Frunza. Autour de la table, nous accueillons Pascal Deboc, Sylvie Van Mol et nous servons au micro Sophie Caudervier. Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Donc, nouvelle émission Scripta Linea, des livres pour le dire. Et si on fait une émission ensemble ce soir, c'est parce que vous avez clôturé et présenté votre nouveau recueil dimanche dernier. Comment ça s'est passé?
Bonsoir, mais ça s'est très bien passé. On a présenté donc ce recueil consacré au regard dans un lieu assez insolite qui s'appelle la Vieille Chéchette, qui est un café-librairie qui se trouve à Saint-Gilles, rue du Monténégro. Un endroit assez particulier parce que c'est tout petit, c'est un endroit tout petit, mais où il se déroule beaucoup de choses, des concerts, des projections de cinéma, des ateliers d'écriture notamment. Et nous étions pas très 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 nombreux, mais de toute façon le lieu ne peut pas accueillir énormément de personnes. Mais l'ambiance était très sympathique et le recueil a été globalement très bien accueilli.
Et donc comment le public a-t-il reçu ces textes? Comment a-t-il réagi à ce que vous disiez?
Globalement, les réactions ont été très bonnes, surtout du point de vue de l'émotion. Beaucoup de personnes nous ont communiqué le fait qu'elles avaient été émues de différentes manières en fonction des différents types de regards qui étaient exprimé dans les textes qu'on a présentés.
Bon, et avant de plonger un peu plus en avant et profondément dans le thème que vous avez choisi, je vous propose d'écouter une première chanson que vous avez choisie pour nous mettre un petit peu au point au niveau technique. Et cette chanson s'appelle Barbara. Un commentaire sur la chanson choisie?
Après.
Regarde, quelque chose a changé. L'air semble plus léger. C'est indéfinissable. Regarde, sous ce ciel déchiré, tout s'est ensoleillé. C'est indéfinissable. Un homme, une grosse belle main, a ouvert le chemin. Les enfants, soleil, enfants des yeux, le suivent deux par deux, le cœur en amoureux. Écoute ces fanfares et musiques, pentamare magique, féerique. Regarde, moins chagrin, moins voûté, tous ils semblent danser, leur vie recommencer. Regarde, on pourrait encore y croire, il a suffi de le vouloir, oui, avant qu'il ne soit trop tard. Regarde, on a tellement rêvé que sur les murs bétonnés poussent des fleurs de papier. Et l'homme, une rose à la main, étoile à son destin, continue son chemin. Il est devenu des milliers qui marchent émerveillés dans la lumière éclatée. Regarde, on a envie de se parler, de s'aimer, de se toucher et de tout recommencer. Regarde, planté dans la grisaille, par-delà les murailles, c'est la fête retrouvée. Ce soir, quelque chose a changé, l'air semble plus léger. C'est un effet des sables. Regarde au ciel de notre histoire, une rose à nos mémoires dessine le mot espoir.
On vous a quand même demandé à Pascal ou à Sylvie un petit commentaire sur la chanson choisie. Peut-être Pascal.
Eh bien, c'est une chanson, oui, liée au regard, mais qui n'est pas, à proprement parler, une chanson sur le regard, qui est une chanson où le regard ici est utilisé comme, comme une espèce de prétexte à la découverte d'une vie, de valeur de vie, où l'auditeur est pris à témoin par son regard, bizarrement le regard de celui qui écoute. Voilà. Mmh.
Et donc, nous avons tous compris que le thème était le regard. Et Pascal, tu vas nous lire peut-être votre édito.
Je vous lis l'éditorial de la compilation. Et on fera quelques petits commentaires après. Tu ouvres le livre et tu regardes. Avant de lire, tu poses les yeux là. Juste ça. Regard furtif, prélude à tous ceux qui t'animeront. Les yeux, ceux de ton livre, te feront voir les couleurs, toutes celles de ton iris. Regard d'or émerveillé, celui de l'enfant qui résonne à jamais dans le cœur de l'adulte, qui scrute les corps, se répand sur la peau et s'abandonne à son présent. Sombre iris, couleur pupille, obscurité qui coule vaniteux dans ses propres filets. Regard miroir, regard tyran. Couleur pastel qui réconforte et qui réchauffe. Regard de coin du feu, iris crépitant, qui veille et qui comprend. C'est l'accueil d'un sourire, l'orgueil du sans-orgueil. Il te prend où tu es, il te dit tout est bien, et tu peux exister sans rien changer, connu et reconnu. Ocre du sphinx, spectateur lointain et impassible, son feu te glace, son regard te fait voir le spectre de la tombe, le calme et le repos. Sous le soleil vert bleu des projecteurs te voici ligne de fuite. Toi, l'artiste, tu fais face, on te transporte et tu transpires. Ton vol est encombré, ton chant est adulé, tu es le roi. Cheveux gris d'un visage caché, yeux absents, détournés. L'émotion sans relation. Jour de pluie. Rouge, rouge, rouge. Au premier instant, tu l'as reconnue. Elle est ton amour depuis la nuit des temps. C'est l'alliance éternelle et personne n'y peut rien. Regarde du feu qui ne meurt pas, comète qui s'éloigne et qui revient sans cesse. Et te voilà, lecteur, à regarder le livre, à le livrer à toi, à voir en lui ta vie qui s'épaissit de ses pages tournées, pour te livrer à lui, que son iris croise le tien et se transfigure vos couleurs.
C'est toi qui as écrit cet édito, Pascal ?
C'est-à-dire que c'est moi qui l'ai rédigé, oui, sur les différentes idées qui composent les textes. L'édito a été rédigé après les textes. Et on a fait une espèce de brainstorming sur les différents types de regards qui étaient présents dans les textes, et j'ai essayé de rassembler ces différents regards dans un édito qui reprenait donc l'ensemble. J'ai pas voulu chercher des lieux communs dans le premier sens du terme, mais plutôt prendre les différents types de regards les uns après les autres. Voilà.
Ça veut dire que tu as pioché des petits extraits de ces textes ?
Ce ne sont pas des extraits des textes, c'est plutôt des idées qui sont contenues dans les différents textes et différentes manières d'appréhender, de comprendre le regard. Comment un regard peut-il être perçu ? Un regard peut être quelque chose qui nous élève, un regard peut être quelque chose qui nous abaisse, qui nous condamne, qui nous juge ou qui nous fait grandir.
éventuellement, ou qui nous regarde simplement avec amour, simplement. Mmh. Voilà.
Ça parle de couleurs aussi.
Il y a des couleurs aussi. Alors là, on essayait effectivement, ça c'était une, je pense, une idée du groupe, si je me souviens bien, oui, d'associer chaque type de regard à une couleur, oui, mmh. effectivement.
Eh bien, Sylvie, tu vas nous lire un extrait de ton texte ?
Oui.
Alors... Comment s'appelle-t-il ? Quel est le titre ?
Alors, le titre, c'est « Perdu ». Donc, je vais vous lire le début du texte. Une ville, des immeubles, à l'entrée des bâtiments, de longues files indiennes d'hommes et de femmes, bras ballants, le front face au sol. Les files se résorbent à une cadence élevée. Seul le bruit des pas se fait entendre. Un homme, tout entier tourné vers l'horizon, entre dans la tour qui lui fait face. Le corps léger, il se dirige vers le vestiaire, enlève uniquement le pantalon trop large du costume trois pièces, enfile une couche pour adulte et remet le pantalon. La couche fait partie de la tenue de travail réglementaire. Un sourire discret orne son visage. Il ne suit pas, comme c'est le cas les autres jours, le reste de la troupe. Sans que personne ne le remarque, il se rend vers une porte à l'arrière laissée ouverte. Il est en apesanteur. Il pointe le nez dehors, sent l'atmosphère extérieure. Les fins voiles de son visage sont baissées. La face est complètement détendue. Personne. Il sort. Le gratte-ciel surplombe la ville. L'homme court sans se retourner. Les rues seront bientôt désertes. Le petit bout court en zigzag vers l'extérieur de la ville, comme une puce désorientée. La ville ressemble à un immense jeu de ficelles, bien ordonné, bien exécuté. Rien ne dépasse, tout est à sa place. Elle est quadrillée, cadencée. Et puis, ce petit bout de point noir qui va bientôt sortir du cadre. L'homme cherche la sortie. Sans s'arrêter, il tourne dans tous les sens. Haletant, il stoppe et reprend son souffle durant quelques secondes. Son souffle ricoche sur les murs des gratte-ciels et produit une musique qui résonne en écho. Il repart. Il court encore. Il court toujours. L'écho de son souffle est encore perceptible. Les mains plaquées sur les oreilles, il poursuit sa course. L'écho enfle, désenfle, enfle, désenfle. L'homme est à genoux. Il plaque ses mains sur la bouche, sur le nez et halète. Il devient son propre ennemi. À genoux, il tourne sur lui-même. Les mains toujours plaquées sur la bouche et le nez. Là où il est, rien à l'horizon. Il est seul. Ne pas faire de bruit. L'écho de son souffle se mélange maintenant à des sons sortis des entrailles de la terre. Un bruit sourd qui s'approche à grande vitesse. Les immeubles. Les immeubles s'enfoncent en partie dans le sol, disparaissent puis s'élèvent un peu plus haut. Il est ébahi. Des escaliers. Les immeubles sont à présent d'immenses escaliers. L'atmosphère s'est transformée. Les premières marches de chaque escalier sont éclairées par un halo de lumière. Le reste de la ville est plongé dans l'obscurité. Il se relève, ôte les mains de la bouche et du nez. Attention, petit point noir. Sens ce qui se passe autour de toi. Observe. L'homme ne peut que se remémorer les artères de la ville, les ruelles, les boulevards interminables, les portes de la cité gardées jour et nuit. C'est à l'aveugle qu'il doit avancer, se situer.
Merci Sylvie. Quel sujet traite ton texte ?
Eh bien, le texte parle de la robotisation de l'être humain. En fait, j'ai un peu l'impression qu'on veut faire de nous de simples machines qui se contentent de produire. Il ne faut surtout pas qu'on pense, surtout pas qu'on réfléchisse, surtout pas qu'on tombe malade. Et on est là au service de l'économie et de la rentabilité. Et je trouve que c'est une société extrêmement violente et extrêmement anxiogène. Alors j'ai eu du coup envie de personnaliser cette société, de personnaliser la ville, d'en faire un être vivant, d'en faire un être qui étouffe, un être qui emprisonne. Et je trouve qu'on est pris en otage, qu'on est pris au piège. Il faut rester debout, quoi qu'il arrive. On ne peut plus être faillible, sinon on est mis au rebut. Et dans ce texte, les immeubles, les fenêtres sont autant d'autorités, autant de lucarnes, autant Dieu. On est constamment surveillé, constamment sur le qui-vive. C'est un peu comme si on était une boisson pétillante qu'on secoue et qui est prêt à exploser. C'est aussi ce sentiment-là que j'ai eu envie d'exprimer par rapport à la robotisation de l'être humain. Et je me demande souvent, en fait, à côté de quel type de société on passe. En voulant à tout prix annihiler la créativité des gens, je trouve que, malheureusement, on rend les gens malheureux et puis souvent très cruels aussi.
Est-ce qu'il y a un élément particulier qui t'a inspiré au départ ou...
Eh ben c'est tout simplement la société, la société telle qu'elle est, telle que moi je la ressens en tout cas, parce que bon voilà, c'est un regard parmi d'autres. J'ai en fait énormément de mal avec la notion de propriété des ressources vitales, vitales à tout être vivant. Donc j'ai énormément de mal avec ça, et j'ai énormément de mal qu'on demande aux gens de travailler pour leur survie, de travailler pour qu'ils puissent manger, boire, se protéger. Donc c'est vraiment là-dessus que j'ai eu envie de me focaliser.
Et en fait, en t'écoutant, moi, je voyais un dessin animé ou un film se passer devant mes yeux. Donc tu impliques vraiment le lecteur ou l'auditeur. Pourquoi cette démarche, ou est-ce que ça y a un sens particulier ?
Ben, en fait, j'avais envie ici que le lecteur soit actif, qu'il soit à la fois spectateur et acteur, qu'il soit à la fois à côté de l'homme et auprès de la ville que j'ai personnifiée. Je voulais à la fois, comme le thème de la compilation, c'est le regard, moi je voulais le regard du personnage, le regard des immeubles et le regard des lecteurs. Et je voulais que ces trois acteurs, parce que pour moi, le lecteur ici est un acteur, que les trois acteurs s'imbriquent l'un avec l'autre, qu'ils ne fassent plus que un. Je voulais que le lecteur regarde ce qui se passe. Voilà, qui regarde vraiment dans quel type de société nous vivons, entre autres, parce qu'il n'y a pas que ça, évidemment, mais ici, moi, c'est l'aspect que j'ai retenu. Et malheureusement, bon, ben, ce n'est pas du tout fictionnel. Hein. Je n'ai absolument rien inventé. Tout est vrai. Donc,
même l'histoire des couches pour adultes.
Même l'histoire des couches pour adultes, c'est vrai. Ça existe, malheureusement. Oui.
Et quel était ton processus de création ? Comment as-tu commencé à écrire ton texte ? Comment l'idée t'est venue ? Enfin, l'idée. Maintenant, tu nous as expliqué comment elle t'est venue, mais voilà, comment as-tu écrit ? Combien de temps ça a duré ? Est-ce que c'est venu d'un jet ? Est-ce que tu as...
Ah non, pas du tout. Mais en général, en fait, je pars de moi, en fait. Je pars toujours de mon ressenti, de mon vécu, pour après évidemment raconter une histoire, une fiction, parce que bon, je raconte pas ma vie, hein, c'est pas très intéressant. Mais j'ai déjà essayé d'écrire en partant d'un élément extérieur à moi, et ça fonctionne pas. Voilà, je n'arrive pas à pondre des textes, donc il faut que ça parte de moi. Ensuite, une fois que je trouve le sujet, je développe toute l'histoire dans ma tête. Donc il faut absolument que, avant de pouvoir écrire, il faut que j'ai dans ma tête le début, la fin et le milieu. Donc il faut que je sache où je vais. Sinon, j'arrive pas à écrire. Et donc ça c'est vraiment, donc c'est trouver le sujet, développer le tout dans ma tête. Et puis après, une des grandes difficultés, et c'est la raison pour laquelle j'ai une écriture très très lente, c'est trouver le mot juste. Voilà, c'est vraiment, j'ai parfois l'impression de même pas savoir parler, tellement ça m'énerve de pas trouver le mot que je veux. J'ai l'image parce que j'ai une écriture très visuelle. Et donc c'est trouver le mot juste pour que les gens voient ce qu'il y a dans ma tête. Mmh. Évidemment, chacun s'approprie le texte, chacun s'approprie l'histoire, mais j'essaye au plus près vraiment de trouver le mot qui permet que les gens voient en lisant ce qu'il y a dans ma tête. Ça, c'est le plus difficile.
Voilà. Cette fois-ci, en tout cas, moi, je te dis, j'ai vu les images, le dessin animé, plutôt dessin animé, un peu style Folon, comme ça.
Folon.
Folon, oui, un bonhomme avec des portes, avec qui s'envole. Oui. Oui, j'ai vu un peu style Folon, voilà.
D'accord.
Mais justement, donc, vous avez fait votre présentation publique. Et comment as-tu présenté ton texte? Tu l'as lu? Tu l'as
Alors,
mis en scène?
Ici, non, il n'y a pas eu de mise en scène. Parce que le lieu était très petit, donc c'était quasi pas possible de faire une mise en scène. Mais cette fois-ci, c'est moi qui l'ai lu, parce que c'est vrai qu'il y a des moments... Parfois, ce n'est pas moi qui lis mes textes, parce qu'ils sont beaucoup trop personnels. Ici, c'est moi qui l'ai lu, je l'ai lu seul. Et en fait, j'ai trouvé ça assez sympa, je trouve que ça s'est bien passé, mais c'est aussi l'espace qui le voulait, parce que c'est un espace assez chaleureux, assez cosy, même s'il n'y avait pas beaucoup de monde, j'ai bien apprécié ce moment.
Et le public, qu'est-ce qu'il en a dit ?
Eh ben, le public, je trouve, peut-être que Pascal pourra aussi en parler, mais je trouve qu'il était très, très accueillant, et apparemment il a passé un bon moment avec nous. Je ne sais pas, Pascal, si c'est quelque
oui,
chose.
Oui, je pense
à dire.
Que c'était une satisfaction non feinte du public. On sentait effectivement un contentement, comme une espèce de chaleur, comme quelque chose de très, je dirais même presque familial. Bon, c'était un peu inhérent au lieu aussi qui était petit et au nombre de personnes qui était assez restreint. Mais on sent, ça ne se passe pas toujours comme ça, mais on sentait cette fois-ci vraiment une communication entre le public et le. Et les lecteurs et les écrivains, qui allaient dans les deux sens. On a fait un petit échange après, qui n'a pas été très très long, mais qui allait vraiment dans les deux sens et qui nous a permis vraiment d'avoir des bons retours. Et puis bon, ça s'est terminé par un petit verre qu'on a pu boire ensemble. Ça dit en passant, il y a des très bonnes bières, pas très connues là-bas, la Vieille Chachette pour ceux qui aiment la bière. Et donc cet échange était très chaleureux et voilà, je pense que ça s'y prêtait bien. Et donc j'insiste, enfin j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais sur le fait qu'il ne faut pas forcément un grand nombre de personnes pour que une présentation publique soit un succès.
Hein.
D'ailleurs,
oui,
succès, c'est peut-être pas le bon mot, mais c'est plutôt la qualité de la relation ici qui a fait vraiment le entre guillemets succès de cette présentation.
La qualité des personnes présentes dans le cocon.
Je pense la qualité des personnes, la qualité d'écoute aussi, qui était très importante.
Eh bien, je vous propose une petite interruption musicale qui aura pour objet Les yeux de ma mère de Arnaud.
Quelque chose d'une emmerdeuse. Elle a des yeux qui tuent, mais j'aime ses mains sur mon corps. J'aime l'odeur au-dessus de ses bras. Oui, je suis comme ça. Dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. Oh, dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. L'amour, je trouve ça toujours dans les yeux de ma mère. Oh, dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. Thank you. ma mère elle m'écoute toujours quand je suis dans la merde. Elle sait quand je suis con et faible et quand je suis poré comme une baleine. C'est elle qui sait que mes pieds puent. C'est elle qui sait comment je suis nu. Mais quand je suis malade, elle est la reine du suppositoire. Dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. Oh, dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. L'amour, je trouve ça toujours dans les yeux de ma mère. Les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. Quelque chose d'une merde dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. Oh, dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. Dans les yeux de ma mère.
Dans les yeux de ma mère. Un petit mot sur la chanson ?
Oui. Moi, en fait, ça fait penser à deux regards. Attendez, parce que je vais éteindre un truc ici, parce que je fais aussi l'assistance technique. Voilà. Donc, ça me fait penser, en fait, à deux regards. Donc, il y a à la fois le regard de la maman sur son enfant, qui est un regard tendre et aimant. Et à la fois aussi le regard de l'enfant adulte qui regarde sa maman et qui voit et qui découvre, on va dire, que sa maman, c'est aussi une femme. Voilà, c'est pas juste une maman, c'est aussi une femme. Je sais pas si tu peux en dire plus, Pascal.
Mais on est clairement dans le regard bienveillant. Ici, on est très loin du regard jugeant. C'est le thème sempiternel, évidemment, du rapport à la mère aussi, hein, et du regard, je dirais, naturellement bienveillant d'une mère pour son enfant, mais comme tu dis aussi, le regard de l'adulte très tendre sur sa mère, regard que beaucoup d'entre nous ont la chance d'avoir, de pouvoir avoir, je crois, sur la mère, qu'on pourrait étendre effectivement aussi à d'autres personnes. Mais c'est le regard qui grandit, dans tous les sens du terme, qui fait grandir l'enfant, et qui le grandit à chaque instant.
Merci. Parlons un peu compilation, hein, puisque chaque collectif, si je me souviens bien, réalise une compilation de textes, qu'il imprime ou non, selon ses moyens financiers. Pascal, tu peux raconter l'histoire de votre compilation, comment se présente-t-elle ?
Notre compilation sur les regards, en fait, a suivi la même méthodologie que toutes les compilations, puisque les collectifs d'écrit sont basés, je dirais, sur une méthodologie, un processus d'écriture, d'élaboration d'une compilation qui est toujours pareil, le processus est toujours pareil, bien sûr, le reste change. Donc nous avons choisi ensemble d'abord ce thème des regards qui nous semblait intéressant. Et puis le processus d'écriture a été lancé, on a commencé à écrire, bien sûr. Je rappelle au passage, peut-être qu'on l'a déjà dit, on le dit, je crois, chaque fois qu'on passe à la radio, que donc les collectifs d'écrit ne sont pas des ateliers d'écriture. Donc pour ceux qui écouteraient l'émission pour la première fois, il ne s'agit pas d'ateliers d'écriture, on n'est pas là pour apprendre à écrire, on n'est pas là pour payer quelqu'un qui va nous dire comment il faut faire. C'est très bien, c'est bien que les ateliers d'écriture existent, mais ce n'est pas du tout ça qui se passe au collectif d'écrit. D'ailleurs, on n'écrit pas ensemble, on écrit chacun chez soi. Et donc, on a élaboré ici cette compilation sous les regards de la même manière que les autres compilations. Et puis, je pense que cette fois-ci, peut-être plus que d'autres fois, mais je crois que c'est inhérent aussi à ce type de démarche, ben, certaines personnes écrivent plus vite ou ont écrit plus vite que d'autres, donc il faut toujours un petit peu attendre, mais voilà, c'est pas grave, attendre certains textes. Donc il faut savoir qu'on travaille vraiment ici dans de l'humain, dans un processus qui est vraiment collectif. Ce qui est très important aussi de savoir, c'est que quand on concevoir une compilation comme celle-là, c'est vraiment quelque chose qu'on fait ensemble. Chacun a son texte, bien sûr, ou ses textes, mais c'est l'ensemble qui nous tient à cœur, tous et chacun. Et ça, c'est quelque chose de très important. Donc, il n'y a bien sûr pas l'ombre d'un esprit de compétition, parce que là, on en est très loin. Ce qui n'est pas évident, il faut le dire, dans le domaine, et là j'extrapole un peu, je prends peut-être un peu de temps, dans un domaine où très souvent, si souvent, on voit des compétitions, des concours, concours d'écriture, concours de nouvelles, concours de poésie, concours de ceci, concours de cela. Ici, rien de tout ça, et on est content de voir que les autres écrivent bien, que les autres, pour pouvoir faire quelque chose de bien et de beau ensemble.
Et quelque part, au-delà du thème que vous avez choisi pour cette compilation-ci, c'est le regard que vous portez les uns sur les autres, les uns aux autres, sur les textes que vous écrivez.
Oui, évidemment, pour cette compilation-ci, le terme « regard » se prêtait particulièrement bien au regard bienveillant, encore une fois, que l'on porte les uns sur les autres, puisque, comme dans toute compilation du collectif d'écrit, on regarde, on relit les textes des autres pour leur donner des conseils, pour leur donner des indications dont ils font absolument ce qu'ils veulent. Mmh. Hein. Et bien sûr, ces regards sont très très importants. Sont très importants. Et c'est peut-être pas anodin que nous avions choisi cette fois-ci ce thème du regard qui nous concerne vraiment.
Le regard, quelque part, permet à l'autre d'exister.
Le regard qui permet à l'autre d'exister et, encore une fois, d'exister, de grandir, de briller d'une certaine manière, de briller, de faire partie d'un feu commun. Voilà.
Et comment se procurer cette compilation?
Alors, la compilation, il faut savoir que toutes les compilations des collectifs d'écrit sont en ligne. Donc, déjà, si vous allez sur les sites des collectifs d'écrit, 3fw.collectif-d'écrit.org, collectif d'écrit tout collé et sans accent, collectif-d'écrit.org, et que vous allez sous l'onglet « Compilation », vous trouverez toutes les compilations de tous les collectifs d'écrit depuis le début des collectifs d'écrit. Donc, ça en fait quand même déjà beaucoup. Et ben, dans les derniers, ou le dernier, ou parmi les quelques derniers, vous trouverez donc la compilation « Regard » du collectif de la ligne 10.
Pascal, tu nous lirais un extrait de ton texte?
Je ne vais pas vous lire un extrait de mon texte puisque je n'ai pas écrit de texte cette fois-ci en dehors de l'éditorial que je vous ai dit tout à l'heure.
Alors, un texte.
Je vais vous lire un extrait d'un texte d'Isabelle De Vrindt. En fait, d'Isabelle, qui est un texte qui s'appelle Châtaigne. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu la réalité bruxelloise, Châtaigne, c'est le nom d'un arrêt de tram de la ligne 82, de la ligne 97, de la ligne 5, non, 82-97. Je meuble un petit peu en cherchant ma page. Voilà. Alors, je vais vous lire cet extrait. On le commentera après. Bonsoir, docteur. Vous avez fait une chute ? Non, je... Ah, vous êtes allé au bistrot, hein, c'est ça. Mais faut arrêter de boire comme un trou. J'espère que ça vous servira de leçon. Bon, voyons ça. Un portrait classique. Côté droit, arcade sourcilière ouverte, hématome sur l'œil. La cornée n'est pas atteinte, mais à surveiller. À gauche, gros hématome sous l'œil. Le nez est intact. Lèvres tuméfiées. Plaie superficielle à lèvre supérieure. Pas besoin de recoudre. Ouvrez la bouche. Douloureux ? Faut voir si vos cordes vocales ne sont pas atteintes aussi. Rien à la mâchoire, rien aux dents. Tiens, même les cordes vocales sont intactes. À quoi ça vous sert ? Vous n'en dites pas une de toute façon. Je répare. Rendez-vous à la prochaine connerie. Tu peux fermer ta bouche, tourne la tête lentement vers la gauche. Même chose vers la droite. Sa grimace ferme. On va te mettre une Minerve et d'abord te faire un cataplasme pour que tu retrouves ton joli minois. Tu donneras ce papier à l'infirmière et celui-là à l'accueil. Après, tu pourras partir.
Mmh. Voilà. Un portrait de médecin, un portrait de patient.
Un portrait de médecin qui... Mais tous les médecins ne sont sûrement pas comme ça, bien sûr. Un portrait de patient, oui, qui, en l'occurrence, est vraiment très patient. Dans tous les sens du terme, parce que patient vient de pati, qui veut dire souffrir, et il souffre à plus d'un titre, apparemment, dans ce genre d'entretien, d'échange. Voilà, donc ici, le contexte de la nouvelle ou du texte, c'est pas quelqu'un qui a trop bu, c'est pas quelqu'un qui a fait une virée, mais c'est quelqu'un qui s'est fait agresser, donc c'est pas du tout drôle, c'est une victime qui est regardée avec des yeux méprisants, des yeux vraiment qui le condamnent. Et ce regard, bien sûr, est tout le contraire du regard dont on parlait tout à l'heure. C'est un regard qui détruit. C'est le regard qui détruit encore plus et qui ajoute à la douleur physique, à la douleur, au traumatisme d'une agression, qui ajoute un second traumatisme qui est celui de la non-reconnaissance, simplement. La non-reconnaissance qui empêche la victime d'être reconnue, la personne d'être reconnue telle qu'elle est et qu'il a détruit. Il est vrai que ce soit dans le monde médical ou dans n'importe quel autre monde, je pense, peut-être dans des milieux où les gens, où on est confronté à des gens qui, je veux dire, ont un certain niveau de, en tout cas d'études, d'éducation, etc., où on s'est arrivé à un certain degré de... d'expertise, en tout cas dans un domaine, quel qu'il soit, il me semble qu'on peut être confronté à ce genre de situation. Et je crois que c'est quelque chose qui dépend très fort, effectivement, de la personne qu'on a en face de soi. Dans tous les domaines, on va trouver des gens terriblement, c'est pas le mot, mais éminemment humains. Et d'autres qui ne le sont pas du tout et qui entretiennent sans doute eux-mêmes des souffrances pour être comme ça. Voilà, ici on a quelque chose, je ne dirais pas que c'est caricatural, mais ça ne se passe heureusement pas toujours comme ça. Mais ça laisse à réfléchir parce que ça montre quand même un certain état d'esprit d'un certain nombre de gens qui pensent que parce qu'ils ont... ils sont arrivés, peut-être, à quelque chose, peuvent, au fond, se permettre n'importe quoi, avec n'importe qui.
Il me semble en tout cas à l'audition que ce médecin est plus vétérinaire finalement que médecin.
Peut-être bien, oui. Oui, et le patient n'est même plus un animal, il n'est plus rien du tout.
Il n'est plus rien. Mmh. Sylvie, tu vas aussi nous lire un extrait d'un texte ou un texte ?
Oui. Alors, moi, j'ai choisi de prendre un des textes de Dominique Istaz. Donc, c'est un texte que j'ai lu en duo avec elle durant la présentation. Donc, cette fois-ci, je lirai toute seule le texte. Et donc, c'est « Tourner la page ». En fait, je vais le lire en entier parce qu'il est assez court, donc je le lirai en entier. Assis sur un banc métallique, dans un couloir de la gare du Midi, il est là depuis longtemps. On dit de lui qu'il y est depuis la nuit des temps. On ne sait pas qui il est, ni ce qu'il veut. Il ne dit rien. Il reste juste là, du matin jusqu'au soir, le dos bien droit, immobile. Seuls ses yeux parlent. Il exprime la haine, fouille dans les âmes et tue sur le champ. Un coup sec, précis. Puis son regard accroche une autre victime et la descend à son tour. Autour de lui, plus de bruit, plus de passage. Sans que l'on sache trop bien pourquoi, on ne passe plus très souvent par ce couloir. On fait un long détour, quitte à manquer le train. Les rares passants qui s'y aventurent sont ignorants ou d'une audace extrême. Un jour, un jeune homme habillé d'un pull trop large et d'un vieux jean troué vient s'asseoir à côté de lui, attiré par la quiétude du lieu. Il ne lui parle pas et prend dans sa besace un livre, qu'il caresse longuement avant de l'ouvrir avec précaution à la première page. Ses yeux suivent lentement le texte, page après page, jusqu'à la fin. Il ferme alors le livre, esquisse un sourire de contentement et reste là, méditatif, heureux. Puis, il se lève lentement, se tourne vers l'homme immobile qui ne lui a pas jeté un seul coup d'œil et le remercie de son silence pendant la lecture. Le jeune homme revient de plus en plus souvent. À chacune de ses apparitions devenues quotidiennes, il apporte un nouveau livre qu'il savoure jusqu'à la fin et après un long moment d'intériorité, quitte son voisin avec la même formule de politesse. Des mois ont passé, peut-être même des années. L'homme aux yeux revolver a vieilli et la braise de ses pupilles semble moins ardente. Oh, c'est à peine perceptible. Chaque jour, en attendant l'arrivée du jeune homme au livre, il poursuit le massacre des quelques innocents qui se déplacent dans le couloir. Pan ! La femme au tailleur vert. Le gaillard au pantalon troué. Pan ! L'enfant qui suce son pouce dans sa poussette. Pan ! Pan ! Et pan ! Et repan ! Une journée lui paraît plus longue que les précédentes. Puis une autre, et encore une autre. Le garçon a-t-il oublié le rendez-vous quotidien ? L'homme ne quitte plus son banc et attend. Le temps passe. Les jours et les nuits se rassemblent, se ressemblent. Son dos se voûte, son regard se fane. Plus personne n'a peur de lui maintenant. Une femme vient s'asseoir inopinément à côté de lui. Mais l'homme sent mauvais et elle s'en va rapidement, oubliant le livre qu'elle tenait à la main. Alors, pour la première fois, l'homme tourne la tête et l'incline vers le banc. L'objet est là, tout près de lui. Il hésite, se penche et le prend entre ses mains tremblantes. Il s'apprête à lire quand il remarque un signet qui dépasse de la dernière page. Intrigué, il s'en empare et y découvre, en surimpression d'un dessin représentant des yeux qui se reflètent à l'infini dans d'autres yeux, une citation. L'orgueilleux se regarde dans un miroir, le vaniteux se contemple dans les yeux des autres. Vaniteux, le mot résonne, des larmes coulent sur les joues du vieillard. Il se souvient de sa femme, des paroles mordantes qu'elle a prononcées en le quittant. Il se souvient de la vague de colère qui, montée de son ventre, s'était arrêtée à hauteur de ses yeux. Il avait transpercé à 1000 balles. Il l'avait vue sanglante, étalée sur le sol, et avait joui du spectacle. Il s'en est fallu de peu pour qu'il passe à l'acte. Il cultivait cette haine avec une certaine jubilation. jour après jour, passant après passant, assis sur le banc de la gare, à l'endroit même de leurs adieux. Le vieil homme prend le livre sur le bras, quitte le banc en titubant, aveuglé par la lumière qu'il ose enfin regarder. Il jette un dernier coup d'œil en direction du couloir, certain qu'il ne reviendra jamais.
Eh bien, nous allons...
Peut-être un petit commentaire sur ce texte qui à la fois est très très intérieur, je trouve, et nous confronte à une réalité qui est quotidienne finalement, hein, de ces gens qu'on voit sur les bancs, que ce soit des entre guillemets clochards ou même pas, et finalement tous ces regards qu'on croise de gens qui sont assis et dont on ne sait pas ce qu'ils pensent, dont on ne sait pas ce qu'ils ont comme histoire et dont on ne sait rien, et on passe devant ces gens sans jamais rien savoir d'eux. Et peut-être que c'est un texte quand même aussi qui au-delà de la problématique entre guillemets peut-être sociale, c'est un texte qui nous rappelle que quelque chose d'assez banal, mais que chacun d'entre nous a une histoire, que chacun d'entre nous a une histoire derrière ses yeux, a une histoire derrière son regard et un passé qui transparaît toujours à travers un regard. Ça me faisait penser aussi à une chanson de Brassens qui est en fait un poème d'Antoine Paul qui s'appelle Les Passantes, où justement l'auteur parle de toutes ces passantes, ces femmes qu'il a rencontrées dans sa vie sans jamais leur avoir adressé même la parole, et en imaginant non pas leur passé mais toute l'histoire qu'il aurait pu vivre avec, et où là c'est plus pas le passé mais le futur. Et donc oui, voilà, cette vie qui existe dans chaque personne qu'on rencontre, que nous on voit comme un objet et qui en fait est un sujet sans qu'on puisse même le soupçonner en les croisant.
Moi, ce qui m'a frappé, c'est finalement la fidélité de ce jeune qui vient s'asseoir tous les jours, et puis finalement sans échanger de mots, sans échanger de regards, ils s'étaient habitués l'un à l'autre, ils s'étaient un peu apprivoisés, et sans mots, sans gestes, sans paroles, sans regards, le jeune avait pu transmettre au vieux sa joie, son bonheur de lire à côté de lui. Et il s'était habitué finalement à cette présence. Et moi, je trouve ça fabuleux de finalement le fait de d'être là, de ne pas. Ce qui s'est passé, c'est qu'il ne l'a pas rejeté. Il est resté assis, même si le vieux sentait mauvais. Et donc, il était là. Il l'a pas rejeté et il l'a pas vraiment reconnu non plus, puisque ils échangeaient une parole, puisqu'à la fin, chaque fois il le remerciait de son silence. Donc il y avait quand même un échange, enfin une parole qui était dite. Et ben moi j'ai trouvé ça très très humain comme texte. J'ai beaucoup aimé. Peut-être une petite chanson encore de Vincent Delbuzet qui s'appelle Tant qu'il y aura du monde.
Assis entre un moniteur de ski et un docteur en blouse blanche, est-ce que tu me donnerais ma chance?
Non.
Planté entre un courageux pompier et un joueur de beach volley, est-ce que tu me remarquerais?
Non.
Perdu entre un chippendale tenu et un acteur de cinéma, non, je n'existerai pas. Et tant qu'il y aura du monde entre nous, les secondaires, tant qu'il y aura du monde, et il y en a entre nous, j'aurai l'air d'avoir l'air simplement ordinaire. Cloué entre Johnny Hallyday et un beau pilote d'avion, j'aurais pas l'air un peu couillon.
Si.
Moi, entre une bombe ballardina et une pin-up américaine, je te regarderai quand même.
Menteur.
Non.
Si.
Largué entre ce que j'ai rêvé et tout ce que je ne suis pas, non, je n'existerai pas. Tant qu'il y aura du monde entre nous, je resterai derrière, fragile et secondaire. Tant qu'il y aura du monde, j'aurai l'air d'avoir l'air simplement. pensée, sans artifice et sans effet. Je ne t'ai pas vu me regarder, persuadé d'être le dernier des derniers, ni plus ni moins sans intérêt. Je suis parti les yeux fermés. Encore une occasion qui s'endort, je pars droit dans le décor.
Alors, hors antenne, vous me disiez que vous alliez rejoindre, après l'émission, une des écrivaines de la ligne 10 Domi, ce soir.
Oui, donc Dominique, qui est une des membres du collectif, Dominique Istas, fait une exposition, participe à une exposition de photos qui, dont le vernissage a lieu ce soir au château du Carvelt, c'est à Molenbeek. Et cette exposition se prolongera encore jusqu'au
28 mai.
Jusqu'au 28 mai, voilà.
Et c'est le Royal Photo Club Germinal. Voilà. Et oui, et Dominique, vous disiez que le club n'est pas fermé, mais ouvert à tous les photographes, quel que soit leur niveau. C'est un peu comme votre collectif, hein, finalement, qu'on se garde bien d'appeler un club pour son ouverture. Vous êtes en fin de parcours. Quand peut-on vous rejoindre pour un nouveau parcours d'écriture avec la ligne 10?
Alors, une première rencontre aura lieu le 3 juin à 14h, avec d'abord une évaluation de notre parcours, ça c'est entre nous, et puis l'accueil de nouveaux membres. Je ne vais pas dire éventuellement, mais l'accueil de nouveaux membres, on y croit, parce que il faut y croire et que c'est quelque chose de très bien. Donc si vous écoutez cette émission et que l'expérience vous tente, ben, venez au moins nous rejoindre le 3 juin à 14h. Donc cette réunion aura lieu au Point Culture de Bruxelles. Si vous voulez y participer, si vous voulez ne fût-ce que venir voir en se disant ben voilà, je verrai bien si je m'inscris ou pas, vous pouvez vous inscrire sur contact@collectifdecrit.org. Ça, c'est le lien sur le, enfin, non, pardon, c'est l'adresse mail à laquelle vous pouvez vous inscrire, ou bien simplement en téléphonant au 0476 05 35 79, 0476 05 35 79.
Et au-delà du collectif de la ligne 10, il y a le réseau des collectifs d'écrit. Hein. Plusieurs rendez-vous scriptalinéens nous mènent jusqu'à l'été. Pascal, tu nous en dis un petit mot?
Alors, d'abord, il faut savoir que si vous avez envie de créer vous-même un collectif d'écrit, là, on est encore dans un autre registre, dans votre région, commune ou quartier, c'est possible. Vous pouvez dès à présent vous inscrire à la prochaine formation qui se donnera à Bruxelles les 27 et 28 juillet de 10h à 16h30. Toutes les infos et les modalités d'inscription sont sur le site des collectifs d'écrit, www.collectifdecrit.org. Voilà. Alors, nous avons une assemblée générale de scriptalinéa le 21 mai à Bruxelles, au siège social, présentation des comptes du rapport d'activité, etc., mais aussi discussion sur les moyens de toucher des nouveaux publics. Bienvenue à tous ceux qui voudraient participer à cette assemblée générale. Vous écrivez un mail, bien sûr, toujours à la même adresse mail, si vous voulez y être invité. Le 23 mai, je continue sur la lancée, hein, sous le 23 mai, à 10h30, le collectif qui s'appelle les Fêlés du Français, donc c'est un autre collectif d'écrit, présentera ses textes sur le bien-être et sa compilation qui s'appelle La Lumière de la Vie. Et ça se déroulera à l'ASBL CIMA à Saint-Josse, rue Brielmont, numéro 21. Je continue.
Je continue.
Le 5 juin, le collectif de la diversité à la créativité, encore un autre collectif d'écrit, présentera son recueil Résistance. Venez arpenter avec les 6 écrivantes les rues de Molenbeek. Ce sera itinérant. Venez découvrir leurs textes et partager leurs réflexions sur ce thème intemporel et cette urgence. Rendez-vous donc, ça commencera à 15h au phare du canal, quai du Charbonnage numéro 40. Le 9 juin, le collectif Balade en forêt présentera ses textes sur le thème de la beauté et de la ville. Ça se passera à 16h dans un lieu encore à définir. Rendez-vous bien sûr sur le site comme pour tous les autres rendez-vous.
Et si vous n'avez pas pu tout noter parce que les informations étaient quand même très très denses, ces informations sont reprises sur le site des collectifs d'écrit, je vous le redis, www.collectifdécrit au pluriel en un mot sans accent .org. Bon, il nous reste quelques minutes pour éventuellement échanger. Est-ce qu'il nous reste quelques minutes ou... Non, il y a encore un rendez-vous. Il y a en fait, c'est ça, les prochaines émissions, excusez-moi. Hein. La fin de la journée est là. La fin de l'émission. La prochaine émission des livres pour dire aura lieu le 20 juin de 18h à 19h avec les résistances justement du collectif de la diversité à la créativité de Molenbeek. L'émission de ce jour sera rediffusée le jeudi 1er juin de 18h à 19h.
Sur Radio Air Libre, bien sûr.
Sur Radio Air Libre. Et nous allons tout doucement prendre congé, hein, chères auditrices et auditeurs, chères Ligne 10, vous tous qui nous écoutez. Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine émission le 20 juin. Je remercie les invités, Pascal, Sylvie.
Merci à toi, Sophie, d'avoir animé cette émission.
Sylvie, à l'assistance technique également, et Tamara. Et puis, à tout bientôt. Une bonne soirée. Profitez de la chaleur du printemps.
Bonne soirée.
Bonne soirée.